Mesdames, Messieurs, chers collègues, cher Christophe Franck, bonjour. Notre collègue regretté, Alessandro Bettagno, dans son livre Piranesi tra Venezia et l'Europe, Piranesi entre Venise et l'Europe, Florence 1983, en évoquant l'inquiétude, il non finito, de l'auteur de Piranesi, cite le jugement de Giovanni Lodovico Bianconi, qui fut l'un des premiers biographes de Piranesi, dans son Elogio storico del cavalier Giovanni Battista Piranesi, 1802, qui remarquait que Piranesi stentava a spiegarsi con chiarezza, n'arrivait pas à s'expliquer clairement. Le passage, c'est à la fin de ce portrait, et le suivant, fu parlatore più abbondante che eloquente. Plus facond que éloquent, plus abondant qu'éloquent, stentando a spiegarsi con chiarezza, concepiva però a meraviglia le idee del bello nell'arte del disegno e le esprimeva nei suoi rami, c'est-à-dire dans ses gravures, con una rara felicità. Le portrait final de ce texte de 1802. Et donc nous avons ici, me semble-t-il, une nouvelle formule pour notre inachevé. Nous avons vu déjà un exemple historique la semaine dernière avec le cours de Madame Benedetta Papasoli sur l'inachevé prismatique, pour ainsi dire, chez Pascal. Et peut-être, mais nous le verrons dans un instant, qu'ici nous avons une nouvelle formule. L'inachèvement par surabondance de détails, par multiplication de rampes nocturnes, comme si, et ce sont les biographes à le souligner, seul l'inachèvement pouvait faire appel au mystère, alors que le jour et la clarté enveloppent le fini de la forme. Francisco Arauta a ici même évoqué cette polarisation au XVIIIe siècle, d'un côté Piranesi, de l'autre côté Winckelmann. Christophe Franck, qui a trouvé un fascicule d'inédit absolument essentiel de Piranesi, ira nous en parler. C'est vraiment une découverte fondamentale pour ce siècle. Je dirais juste un mot pour présenter notre conférencier. Christophe Franck est réellement un Weltmann, l'un des esprits européens les plus ouverts. On aurait, bien sûr, j'aurais aimé vivre avec lui au XVIIIe siècle, pas dans ce siècle si malheureux. Mais sa présence est encore plus importante. Il a fait ses études dans un haut lieu de la tradition européenne, à savoir au Warburg Institut. Et puis, il a été de 1994 à 2006 responsable du département d'histoire de l'art, là aussi dans un lieu essentiel, c'est-à-dire le Centre européen sur l'étude des Lumières, Aufklärung, à Potsdam. Et puis, il a enseigné à l'Université technique de Berlin. Et après, il a été boursier au Max Planck de Roms, à savoir la Bibliotheca Hertziana. Comme vous voyez, donc, il y a déjà un parcours européen exquis, auquel s'ajoute une période, encore une fois, de recherche à la Maison des sciences de l'homme à Paris, et puis Columbia University à New York, où il est revenu récemment pour donner des conférences qui sont très élues à la Frick Collection donc à New York. Et il a travaillé sur l'architecture, nous le verrons du reste, et la conscience de l'art au XVIIe et XVIIIe siècle, les collections en Allemagne et en Russie, les agents et les correspondants des différents mécènes ou princes pour les arts et l'architecture en Europe. Et surtout, c'est la partie que pour le littéraire est absolument essentielle, la théorie des arts chez Diderot et chez Friedrich Melchior Grimm, dont il a publié l'édition critique de la correspondance littéraire. Récemment encore, a reconstitué le réseau européen de Caroline et Louise von Baden. Et c'est précisément ce que nous avons, je dirais, l'incarnation de ce que nous avons appris dans nos manuels, à savoir que l'Europe a été faite par la réunion d'esprits qu'on retrouvait dans les cours, dans les théâtres, dans les collegia des jésuites et bien sûr aussi dans la République des lettres de ceux qui avaient des collections, qui échangeaient sur les fouilles et les retrouvailles des arts classiques. Et de ce point de vue-là, certainement le XVIIIe siècle est le plus fascinant. Je suis ravi qu'il nous offre cette découverte récente dont je ne dis rien. Je vous laisse la surprise et je lui donne la parole en remerciant infiniment.
Mesdames, messieurs, cher Carlos Sola, pour moi c'est un grand honneur de parler ici au Collège de France et surtout dans une salle dédiée à la mémoire de Maurice Halifax, du sociologue de la mémoire. On touchera certains aspects de cette sociologie, d'un Pyrénèse du XVIIIe siècle au XXe siècle. Je resterai debout pendant cette conférence. En même temps, j'aimerais bien dédier la réflexion pour un bref moment à cet archéologue, Khaled al-Assad. Vous avez suivi ces moments atroces et d'un grand archéologue dont la vie et la mort est très liée aux arguments qui vont suivre. Effectivement, les thèmes qui me préoccupent, qui m'intéressent dans l'œuvre de Piranèse depuis longtemps, ce sont les thèmes, ce qu'on retrouve dans la littérature du XVIIIe, du XIXe, du XXe siècle, Piranèse, qui probablement dans le monde littéraire est encore plus important que dans le monde de l'histoire de l'art, les thèmes de la vie et mort, de la création et de sa destruction. Nos pensées qui sont actuellement à Palmyre, à Damas, à Tombouctou, on se rappelle de Varsovie, on se souvient des ordres qui portaient à la destruction de Leningrad, de Paris et même de Rome. C'est effectivement une histoire de la destruction et c'est une histoire de la destruction que nous, d'ailleurs, doivent étudier, doivent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, avec une vitesse moderne, le patrimoine global est sous menace, nous le savons bien, et vous avez probablement suivi ces derniers jours que ce personnage est inculpé à la Cour pénale internationale, à l'International Criminal Court, à La Haye, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un soit inculpé des crimes contre l'humanité pour la destruction du patrimoine. Fait qu'aujourd'hui, peut-être en 2015-2016, pour la première fois, marque également un avancement du discours. Excusez-moi cette introduction peut-être un peu agressive. Passons des lumières noires de Voltaire, au cerveau noir, qui était Piranèse, selon Victor Hugo. Ce cerveau noir me semble, et on partage probablement cette opinion, cette valutation, un des plus grands artistes de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il était comme visionnaire? Qu'est-ce qui explique cette qualité extraordinaire, cette vision qui a inspiré encore autant de visions critique et à la fois sublime et quelquefois même horrifique. Piranèse me donne l'occasion de vous présenter une conférence sur trois parties. L'inachevé de la civilisation, qui est également l'inachevé de l'art. Deuxièmement, le visionnaire et le Nachleben des Antiques, cette formule que je dois à Warburg. Et troisièmement, la perception empirique, ça veut dire les chemins de la compréhension historique, sujet qui est tellement centré sur le Collège de France. L'inachevé de la civilisation, c'est un ancien discours, vous le savez bien, et surtout au XVIIIe siècle, avec les concepts de perfectibilité de la société et les beaux-arts. Ici, il suffirait de nommer une fois de plus Denis Diderot. La découverte récente de quelques 297 dessins qui provient de l'atelier de Giovanni Battista Piranesi, nous la devons à un jeune homme de 19 ans, que vous voyez ici, qui a fait un stage à la Kunsthalle de Karlsruhe, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Ici, vous voyez un des deux albums présentés par la directrice de la Kunsthalle, Pia Müller-Tamm, j'aimerais bien me remercier parce qu'elle m'avait demandé dès le début de suivre la découverte du jeune homme. Et à côté, vous voyez également la directrice du cabinet de dessin. Georg Kabirske, actuellement en troisième semestre en histoire de l'art à l'université de Heidelberg, fils d'un conservateur d'archives architecturales à Karlsruhe, le Südwestdeutsche Archiv für Architektur und Ingenieurbau, les archives architecturales et d'architecture les plus grandes de la République fédérale d'Allemagne. La Kunsthalle de Karlsruhe est un musée de moyenne taille avec une très très belle collection des œuvres d'art de la Renaissance allemande et est particulièrement connue en France pour son excellente collection des tableaux du XVIIIe siècle français. Le musée en soi a été fondée sur la collection de Caroline Louise de Bade, une correspondante de Voltaire, de Linné et tant d'autres des grands penseurs du XVIIIe siècle. Nous sommes ici dans un laboratoire du XVIIIe siècle, un laboratoire de pensée et de beauté, un laboratoire également d'archives. Et c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que le 9 mars, nous allons mettre online la totalité des correspondances de Caroline Louise de Bade, ce sont 154 volumes d'un patrimoine écrit, richissime et jusqu'ici peu connu. Georg Kabirske faisait un stage à la suite de sa maturité et il avait un intérêt pour Giovanni Battista Piranesi parce que son grand-père lui avait offert deux estampes, deux eaux-fortes. Au même moment, son père était en train d'organiser une grande exposition sur l'architecte de Karlsruhe, Friedrich Weinbrenner, néoclassiciste, qui passait à Rome en 1792 jusqu'à 1797. Et c'était à ce moment-là, paraît-il, qu'il s'est acquis ces deux albums et leur contenu. À la suite de sa découverte, plusieurs spécialistes ont été contactés sur la présence de ces deux capricci qui ont été authentifiés. Ce qui est surprenant, que l'histoire de l'architecture à Karlsruhe connaissait bien ces albums, les considérait l'œuvre, d'ailleurs très académique, de Friedrich Weinbrenner. Il fallait un nouveau œil, celui de Georg, qui, entre deux semaines, faisait une recherche extraordinaire basée sur les collections digitalisées au monde. On voit naître une nouvelle génération qui embrasse ces nouveaux médias dans le sens positif. Et c'est lui qui a déjà produit autant de réflexions, d'analyses très pertinentes qu'à 20 ans, il a publié trois articles, dont le premier dans Master Drawings of New York. J'aimerais bien remercier ce jeune homme. On dit en sociologie qu'à partir de 25 ans, on ne changera plus d'expérience et de vie. En le rencontrant et en le voyant étudiant ses dessins, j'ai changé pas mal de mes comportements également. Ces dessins sont de la plus haute qualité. Quelques-uns sont déjà authentifiés. Les capricci, qui sont les expressions, l'expression de ces visions et de cet aspect visionnaire. Les albums contiennent, comme je vous disais, 297 dessins, dont probablement 200 revient directement au studio, à l'atelier de Piranèse. Je vous présente, pas pour la lecture, simplement une première évocation d'un premier inventaire que j'avais fait à l'époque de la publication de l'article de Georg Kabirsky, afin de nous assurer qu'on ne se trompe pas sur la découverte d'un tel fonds et d'une telle importance. Nous avons maintenant trois nouveaux dessins pour Santa Maria del Priorato, le seul bâtiment construit sous les dessins, à partir des dessins de Piranèse entre 1764 et 1766. Il y a beaucoup de dessins qui ont un rapport direct et qui ont été effectués pour la publication de la plupart des grandes publications de Giovanni Battista Piranesi. Il y a une grande collection de dessins très larges pour une fois, quelquefois de 60 cm, de 80 cm et plus, pour les vasi et candelabri de 1778. Dès le début, il s'est posé la question de leur authentification, de leur originalité, de leur auteur. Nous revenons sur cette question importante de suite. En même temps, Georg Kabirsky avait découvert des choses étonnantes. À travers lui, maintenant d'autres, nous avons eu l'honneur de présenter la collection la première fois en septembre à Stockholm, à l'Académie de sciences, avec une réunion et une présentation d'introduction dans la collection des antiquités de Piranèse au Château Royal. Entre-temps, j'ai pu authentifier l'écriture, les signatures et les inscriptions, parce qu'on connaît depuis longtemps les deux cahiers d'esquisses et de réflexions de Piranèse, Il Taccuino A et Il Taccuino B, de la Bibliothèque Astense à Modena, dont une première comparaison avait pu affirmer que la plupart des dessins de Karlsruhe effectivement reviennent aux ateliers de Giovanni Battista Piranesi. Qu'est-ce qui se passait? On compte aujourd'hui, et des spécialistes comme Andrew Robinson à la Galerie nationale de Washington, quelques 400 dessins, peut-être, original, authentique. Effectivement, une des plus grandes pertes jamais survenues dans le patrimoine romain, on pourrait dire, c'était la Révolution française et la République de Rome, quand le contenu du Palazzo Tomate a été emporté par les Napolitains et qui menait, paraît-il, à la destruction totale de sa correspondance, de ses manuscrits et des milliers de dessins qui avaient appartenu à Giovanni Battista Piranesi. Vie et mort, création et encore, justement, la destruction. Dans tout cela, il y a aussi une collection de quelques 100 dessins de petites figures d'après l'Antiquité très académique, de plusieurs mains. Il est évident que la plupart des dessins sont de plusieurs mains. Ils relèvent, pour la plupart, au grand contexte piranésien, ce qui est peut-être le plus étonnant, que les albums de Karlsruhe contiennent des originaux qui ont été recopiés par Robert and James Adam et également par Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff, les deux architectes néoclassicisants les plus importants au nord de l'Europe. Ici, à gauche, vous voyez une de ces feuilles de l'album de Karlsruhe recalquée par ou commandée par
Robert Adam. Soit Adam, soit Erdmannsdorff était à Rome à la fin des années 50 et au début des années 60 du XVIIIe siècle, ce qui est important parce que, à travers de leur passage, nous avons des dates assez précises pour une première datation. L'authentification, la datation et même l'identification des sujets de l'iconographie deviennent sujet d'un grand projet qui sera lancé par la Kunsthalle de Karlsruhe en invitant la plupart des grands spécialistes de Piranèse, quelques-uns qui sont présents dans la salle, parce qu'on prépare maintenant entre New York, Rome, Washington et Londres le troisième centenaire de Piranèse qui sera célébré en 2020. Ce qui est étonnant, la découverte d'un jeune de 19 ans, à la fin, nous a produit un fonds richissime, inattendu, qui met en cause pas mal des constatations qui ont été faites sur le compte du Piranèse. Mais il y a encore un autre Piranèse. Ce Piranèse que chacun de nous a besoin de penser de nouveau, de comprendre de nouveau. Récemment, une historienne américaine, Heather Hyde Miner, a publié une grande monographie sur le thème des paroles perdues de Piranèse, The Lost Words of Piranesi. Les paroles perdues parce que le marché et notre esthétique a coupé les gravures de la plupart des grandes publications qui sont intertextuelles. Cette intertextualité de Piranèse est également un aspect qui nous intéressera de nouveau. Ces artistes, la plupart de ses amis français à l'Académie de France et à l'Académie de Rome, auxquels Monique Mosser et Daniel Rabreau avaient dédié cette exposition mémorable dans les années 70, Piranèse et les Français, ces artistes, voyant le zèle et l'ardeur du jeune Piranesi pour l'étude, l'admirent dans leur société. Les jeunes gens commençaient en bientôt fait connaissance. Il acquit avec eux la pratique d'un dessin large et facile et cette manière rapide d'envisager les objets pour les rendre ensuite avec le sentiment et la vie sans lesquels tout est froid, stérile et rien n'émeut, ne plaît et ne charme. Vous êtes trop peintre, mon ami, pour être jamais graveur. Piranesi ne faisait point de dessin fini. Un gros trait à la sanguine sur lequel il revenait ensuite avec la plume ou le pinceau, et par partie seulement lui suffisait pour arrêter ses idées, mais il est presque impossible de distinguer ce qu'il croyait fixer ainsi sur le papier. Ce n'est qu'un chaos dont il démêlait seul les éléments sur le cuivre avec un art admirable. Je pourrais rajouter beaucoup de commentaires par Le Grand, qui a été inspiré directement par Francesco Piranesi, le fils aîné de Piranesi. Parmi les dessins de Karlsruhe, nous avons ici l'aigle, l'aquila, des Santissimi Apostoli à Rome, qui vient du Forum de Domitien. Une fois de plus, une des compositions les plus influentes dans l'iconographie politique du XVIIIe, XIXe, même XXe siècle. Un dessin extraordinaire, parce que ce que vous voyez, c'est un dessin préparatoire à une gravure publié dans les vases et candélabres de 1778. Mais ce que nous voyons là-dedans, ce sont plusieurs mains, évidemment, mais en même temps, il y a des traits qui empiriquement tracent les restaurations, et les restaurations, oui, du XVIe siècle de Vaca. Nous avons également d'autres dessins de cette grandeur pour la première fois qui sont identiques à la grandeur des estampes qui vous démontre en grand détail la pratique de l'atelier et surtout ce qui a été décrit par Le Grand quand il disait à la suite d'une première ébauche inachevée, il les a donnés à ses artistes et les artistes qui ont travaillé pour lui, parmi eux Lullier et d'autres, il les a retouchés et puis il a transféré le dessin directement, sans aide, sur le cuivre. Notre visionnaire, Piranesi, il n'y a pas, il me semble, un artiste pareil au XVIIIe siècle qui aurait déjà visionné, tout au début de sa carrière, pratiquement à 20 ans, une série de gravures qui ont été inspirées autant de commentaires littéraires, même idéologiques. Ce sont ces prisons qui mettent en cause l'être humain dans son contexte, qui parlent d'isolement, d'encloisonnement, d'indifférence, de déhumanisation. Il y avait autant de commentaires sur cela. Il y a toujours la roue qui soit la roue de la fortune, soit la roue de la torture. Ça reste ambigu, pour ainsi dire, une fois de plus, cette dialectique des lumières entre lumière noire et cerveau noir, ce qui donne source et en même temps la fondation à nos fantasmes. Fantasmes extrêmement importants pour les architectes, pour les créateurs, pour les penseurs, pour les littéraires. Qu'est-ce que c'est, ce visionnaire et son art libre? C'est un visionnaire que lui-même a dédié toute sa carrière au Nachleben d'Antique. Tout est antiquité, tout est contemporain. C'est une construction d'angoisse, c'est une architecture de paranoïa. Et pour moi, probablement un des textes les plus grands jamais écrit sur Piranesi et ses prisons est un texte de 1949 de Aldous Huxley, peu reçu dans les études sur Piranesi, un texte qui faisait pour la première fois, et dans ces salles même, ce sera une clé d'évoquer, d'un auteur qui faisait en 1949 la liaison entre le panopticon de Jeremy Bentham et des utilitaristes britanniques et le camp de concentration de Bergen-Belsen. C'est une première transmission en 1949 des événements encore trop frais dans la mémoire pour être complètement assumés. Il suivra une deuxième transmission. Et aujourd'hui, nous sommes au moment d'une troisième. Aujourd'hui, le négationnisme des persécuteurs ou des persécutés est devenu inévitable à cause du fait que nous savons beaucoup plus que jamais. Le seul poids de l'évidence historique et de l'étude de la compréhension historique. Vous connaissez bien cette image de la publication de Michel Foucault en 1975, « Surveiller et punir », ici une vision piranésienne du panopticon de l'isolation de l'être humain avec ces citations très fameuses. Je me permets au Collège de France quand même d'évoquer, même si je ne suis ni foucauldien ni théoricien, d'évoquer ce passage parce qu'il représente pour moi un passage extraordinaire d'une lecture qui peut-être doit certaines de ses réflexions directement à Aldous Huxley. Ville pestiférée établissement panoptique, les différences sont importantes. Elles marquent, à un siècle et demi de distance, les transformations du programme disciplinaire. Dans un cas, une situation d'exception. Contre un mal extraordinaire, le pouvoir se dresse, il se rend partout présent et visible, il invente des rouages nouveaux, il cloisonne, il immobilise, il quadrille, il construit pour un temps ce qui est à la fois la contre-cité et la société parfaite. Il impose un fonctionnement idéal, mais qui se ramène en fin de compte, comme le mal qu'il combat, au dualisme simple vie-mort. Ce qui bouge porte la mort, et on tue ce qui bouge. Le panopticum, au contraire, doit être compris comme un modèle généralisable de fonctionnement, une manière de définir les rapports du pouvoir avec la vie quotidienne des hommes. Sans doute, Bentham le présente comme une institution particulière, bien close sur elle-même. On en a fait souvent une utopie de l'enfermement parfait. En face des prisons ruinées, grouillantes et peuplées de supplices que gravait Piranèse, le panopticon fait figure de cage cruelle et savante. Qu'il est, jusqu'à nous encore donner lieu à tant de variations projetées ou réalisées, montre qu'elle a été pendant près de deux siècles son intensité imaginaire. Mais le panopticon ne doit pas être compris comme un édifice onirique. C'est le diagramme d'un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale, son fonctionnement abstrait de tout obstacle, résistance ou frottement, peut bien être représenté comme un pur système architectural et optique, et c'est en fait une figure de technologie politique qu'on peut et qu'on doit détacher de tout usage spécifique. À ce point, j'aimerais bien remercier mes architectes et mes étudiants en architecture. La réflexion dans une académie de beaux-arts, dans une académie d'architecture, porte sur une autre compréhension de la pratique et sur une autre compréhension également de l'intuition. Autant de ces projets architecturaux semblent naître de Piranèse et de Cyprisant. Effectivement, je ne connais aucun de mes collègues qui n'aurait pas au moins une des reproductions faites au XXe siècle, quelque part dans son intimité. Ce sont ces projets comme le grand volume de 62 encore sur le Campus Martius, qui se réfère implicitement à Sigmund Freud, das Unbehagen in der Kultur, le malaise dans la civilisation, cette étude de 1929-30, où il évoque, Freud, archéologue, la stratification de la mémoire qu'un chacun de nous porte en soi. L'image qu'il utilise est Rome et il Campo Marzio en particulier. De là venait la force de Piranèse, la force de Piranèse visionnaire. Il y a encore d'autres réflexions sombres. Oui, le thème à peine abordé, Architektur und Verbrechen, une analogie à Adolf Loos, Ornament und Verbrechen, l'ornement et le crime, et architecture, le crime. C'est une citation, Architektur und Verbrechen, d'une publication récente d'un des grands historiens de l'architecture, Winfried Nerdinger, à l'Académie de sciences de Bavière, un volume que j'ai avec moi et dans lequel Jean-Louis Cohen, actuellement au Collège de France, avait participé. Un texte pénible qui nous fait comprendre que certains membres du Bauhaus ont construit soit le Stammlager, soit le lager d'extermination de Birkenau et tant d'autres. Du beau idéal winckelmannien à l'esthétique de la violence de Nietzsche, nous devons autant de notre compréhension de l'Antiquité aux penseurs allemands du XIXe et du XVIIIe siècle, l'un romain de cœur et l'autre weimarien de destin. Entre la première et la troisième transmission, de l'expérience à l'esthétique et à l'histoire, ce Ce sera probablement le discours, aussi le sujet d'une longue réflexion que je portais en moi comme ressortissant d'une certaine génération. Récemment, j'étais à Karlsruhe, et lors d'un repas, quelqu'un m'avait demandé « Mais comment décrivez-vous votre génération ?» Et moi, je suis né en 63, et je disais « Je suis après-guerre ». Et lui disait « Non, 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 moi également, je suis né 63, je suis baby-boomer ». Cette division me semble intéressante parce qu'elle pense encore sur un discours générationnel. Mon père, né en 18, ma mère, née à Bâle en 23, et après leur disparition, pour moi, une grande partie du XXe siècle est disparue et en même temps, je l'ai récupérée. Entre baby-boomer et génération d'après-guerre, la longue réflexion d'une première transmission d'une génération de négationnistes, soit parmi les persécuteurs, soit parmi les victimes, la lecture de Aaron Appelfeld nous fait comprendre que la douleur qui en suivait faisait faire disparaître les paroles. Les lieux authentiques, la descente aux enfers projetés et réalisés. En Thuringie, à Nordhausen, à quelques pas de Weimar, où il n'y a pas seulement Buchenwald, afin de nous rappeler qu'est-ce que ça veut dire l'humanité et la civilisation, il y a une fabrique qui s'appelle Mittelbau Dora, construite entre 1943 et 1944 afin d'y fabriquer les fusées V1 et V2 porteurs de la bombe d'hydrogène. C'était un camp de concentration. Pire que ça, c'était une structure sous terre, pire que les visions de Piranèse, construit par des architectes de formation historiciste et probablement consciente et connaisseur des images de Piranèse, où ils ont mis sous terre une fabrique énorme, une usine énorme avec quelques 44 tuyaux dans lesquels 60 000 ouvriers forcés, pour la plupart des Polonais et des Français, dont 20 000 sont disparus dans les conditions les plus inimaginables au XXe siècle. Ça, c'est un modèle de ces tunnels qui subsistent dans nos sous-terres lugubres. La parole de Aaron Appelfeld dans son grand roman de 1991, ce sont les Messilat Barzel, les chemins de fer, le voyage de fer dans un âge de fer. C'est une structure d'angoisse et de paranoïa. Les lieux imaginés, par contre, d'une architecture de la persécution à une architecture de la paranoïa, nous a accompagnés pendant les années 60 et surtout après la crise de Cuba. Mais cette paranoïa s'imprime encore, surtout dans le film, cette paranoïa piranésienne avec les derniers moments de ce grand film, Le Troisième Homme, de Carol Reed, publié en 1949 avec ce fameux passage de la vie à la mort dont les égouts deviennent. Je vous fais simplement montrer quelques images qui vous évoquent encore de la part d'un metteur en scène la grande force qui existe dans le visionnaire de Piranèse. Voyez une fois de plus que cette angoisse ici la scène avec Orson Welles, un des grands, grands acteurs américains de caractère, et avec cette scène finale des doigts qui cherchent à remouvoir la grille, qui sera terminée dans les ombres. Permettez-moi de réfléchir encore sur un autre metteur en scène. Ken, à l'origine Klaus Hugo Adam, né à Berlin le 5 février 1921, émigré en 1934. Représentant de ce que moi j'appellerais la première transmission. Dans le film de Stanley Kubrick, dont je vais vous faire montrer une petite coupure, il a créé la salle de guerre, The War Room. Ici, nous le voyons en 1964, deux ans après la crise de Cuba avec la menace atomique. I love to draw very quickly, to let the ideas flow as fast as my imagination and hand will allow. You will find a circle in all of my designs somewhere. J'adore de dessiner avec grande vitesse afin de permettre le mouvement de mes idées aussi vite que possible envers mon imagination. Vous trouverez dans mes dessins toujours quelque part un cercle. Ken Adam est un grand intellectuel, grand dessinateur, grand artiste. Et ici, on voit son idée initiale pour le War Room de 64, qui doit énormément, une fois de plus, aux prisons de Piranèse. C'est l'architecte Daniel Libeskind, architecte du musée juif de Berlin, de Jüdische Museum Berlin, qui est un grand architecte en termes rhétorique. Peut-être sa rhétorique est plus importante que sa construction. D'autre part, sa rhétorique est une construction. If I think about Adam's production design, there's not one singular set that comes to mind, but rather an array of things revealing themselves in almost a magical way in spaces that are incredibly memorable. Glistening surfaces, out-of-the-world technologies, tunnels of light, darkness, the journey. It is definitely an adventure of the imagination, which is instilled through every corner of his sets with heightened expectations. They are so fantastic because they were ahead of their time. Today we can manipulate space and objects, but in Ken Adam's time, his world seemed like a fantasy. His imagination was always ahead of the real world. Take, for instance, the War Room in Stanley Kubrick's Dr. Strangelove. It is a set that you'll never forget. Adam's vision of the War Room in Washington remains a seminal image of power and decision-making, of life and death. Une image clé, une fois de plus, entre vie et mort. Avec la création de ce War Room, Ken Adam n'a pas seulement donné une idée très précise de la notion de la paranoïa en architecture ou d'une architecture de paranoïa, mais c'est également l'expression de ses expériences personnelles, de la persécution aux membres de la Royal Air Force qui étaient contraints de bombarder cette Allemagne d'où il provenait. Berlinois, d'un humour berlinois extraordinaire, qui conclut, après la troisième transmission, sa vie en donnant ses archives à la Kinemathèque de Berlin. Ces cercles, ces descentes au XXe siècle, permettez-moi donc, en cas que vous ne l'avez pas vu, ou en cas que vous le voyez maintenant, de vous montrer une scène hautement satirique, terrible, je ne sais pas si vous sentez le son. Attendez, ça ne va pas trop bien. J'ai encore une autre... un autre fichier, espérant que ça marche mieux. Je m'excuse pour cette interruption, mais techniquement, nous sommes toujours en défaite. Trahi.
Mr. President, I would not rule out the chance to preserve a nucleus of human specimens.
Staged away some big bombs, you know.
de la perception empirique au chemin de la compréhension historique. Le film de Stanley Kubrick a été formateur, pour des générations. En même temps, il y a peu de satires qui ont si bien saisi la folie humaine du XXe siècle. Soit Kubrick, soit Canadam, dans leurs rencontres et puis dans les journaux de l'époque, ont démontré une compréhension, une co-génialité dans le discours rare. Quand Canadam a travaillé une fois de plus avec Kubrick pendant Barry Lyndon, c'était une autre situation. Soit Kubrick, soit Adam ont rajouté à cette mémoire, et en même temps ils ont évoqué cette paranoïa, cet utopisme racial et de perfectibilité, au point même d'évoquer la fuite de l'homme de la surface de Terre, justement dans ces endroits pyrénéisiens. Retournons à la qualité, à la vraie qualité. Les albums de Karlsruhe contiennent, comme je disais, à peu près 200 dessins que nous sommes sûrs de localiser dans les ateliers de Giovanni Battista Piranesi. Il y a encore 55 versos qui seront à découvrir parce que pour le moment, les dessins sont collés dans ces albums. Ici, vous avez une sanguine de la plus haute qualité, facile, vite, pénétrante. C'est un dessin préparatoire pour un chapiteau. Ici, vous voyez le dessin inscrit « Final Chiuso ». C'est-à-dire, c'est la commande de Piranesi à ses collaborateurs pour le transfert sur le cuivre. Et de fait, vous avez tout un ragionamento sur ce chapiteau qui porte sur le déclin des styles. Un grand nombre des dessins de Karlsruhe reviennent à cette utopie réalisée qui est la Villa Albani à Rome, le laboratoire de Winckelmann, le laboratoire de Charles-Louis Clérisseau, mais aussi de Giovanni Battista Piranesi, qui avaient dessiné en commun dans les années 50 dans ces mêmes lieux. Lieux malheureusement inaccessibles pour la plupart de nous, mais quand même un des hauts lieux, le laboratoire de l'utopie antique du XVIIIe siècle. Parmi ces dessins, également en sanguine, il y a, ou en croyant rouge, il y a ce fragment d'un sarcophage antique. Élément exceptionnel parce que c'est la seule représentation où nous avons soit un sacrifice, soit cette formule léonienne. Ici, nous avons l'original qui est emmuré quelque part dans ce vaste parc archéologique qui est la Villa Albani. Autant est à considérer de nouveau. Aussi, les rapports entre Winckelmann et Piranesi, ce qu'on a toujours décrit comme étant antagonistes. L'un, le Romain achevé, acharné, et l'autre, le Grec qui poursuivit la Grèce, qui a poursuivi la Grèce à travers des copies romaines. Winckelmann a cette force narrative du XVIIIe siècle. Dans un sens, c'est le Buffon de l'archéologie, comme Piranesi est un autre Buffon de l'archéologie. Encore trois autres éléments de la Villa Albani y inclut les fameux barbares de la fontaine que Napoléon a porté au Louvre, où il reste jusqu'aujourd'hui. Cette fontaine, qui est également publiée par Piranesi en 1778. Les albums contiennent effectivement ce qu'on pourrait appeler le visionnaire de Piranesi, son laboratoire, son atelier, son rapport avec ses collaborateurs, Et ça posera énormément de questions intéressantes, même difficiles, sur la question de leur authentification. Les dessins sont d'une pertinence, d'une présence extraordinaire. En même temps, ils sont de caractère hautement empirique. Ce que j'avais déjà évoqué, que ce grand dessin de l'aigle est également un document de l'état de l'aigle dans les années 60 du XVIIIe siècle à Rome. Les archéologues ont établi que deux tiers des antiquités représentées dans les ouvrages publiés par Piranèse sont déjà disparues. Ici, vous voyez par exemple la grande et très fameuse, très belle arabesque de la Villa Médicis. La Villa Médicis, avec sa collection des Medici, est présente avec une bonne dizaine de nouveaux dessins de l'atelier de Piranèse. Et ça porte à l'étude, une fois de plus, des arabesques, des matériaux que dans une esthétique de beau idéal serait peut-être pas le comble. Ici, vous voyez une très très belle esquisse dans les cahiers de Modena sur la Casa dei Crescenzi, autrement dite la Casa di Cola di Rienzo, qui est très fameuse parce qu'elle contient une vaste collection des œuvres spoliées, surtout des forêts des empereurs. Et déjà, dans les années 60, semble-t-il, Piranèse s'intéressait particulièrement à ces arabesques afin d'y établir une compréhension des déclins et des styles en déclin. De nouveau, nous allons faire la comparaison entre l'original et sa copie. Et de plus, nous avons devant nous un matériel extrêmement important, car il documente encore l'état physique de ces œuvres, soit abîmées, soit détruites entre-temps. Dans cet Aquino de Modena, il y a un bref passage également qui se réfère à tout un engagement théorique de la part de Piranèse. Ces paroles perdues, the lost words. La decadenza del buon gusto dell'architettura ossia sesto ordine dal quale deriva il gusto barbaro fondato sulle rovine degli Egizi, Greci e Romani, da cui ebbe l'origine del nuovo gusto barbaro. Non ci rimane altro monumento che questo, cioè da un passaggio all'altro. Da qui poi ne nacque un'altra volta cattivo gusto del Borromini ed altri che esaminarono di bel nuovo architettura. Ce sont ces réflexions vite spontanées qui ont un rapport direct avec la production visionnée de ce visionnaire qui, selon le grand, aurait dédié tout son temps à dessiner, à réfléchir, qui cherchait une solitude extraordinaire, qui évitait les contacts avec ses collègues, qui laissait tout l'aspect de la production libraire, qui connaît un succès extraordinaire, plus important encore que c'est celui de l'encyclopédie, à la fin, une production entièrement faite en solitude, en sollicitant des lieux comme San Lorenzo e Fuorilemura, où il dessine ou laisse dessiner, où il intervient, où il inscrit encore sur des dessins faits sur ses ordres. San Lorenzo, à cette époque, qu'il sollicitait une fois de plus pour ses arabesques en se faisant toute une réflexion encore sur le déclin des goûts, du style, de la corporalité, de la représentation, qui semble toute sa vie un discours, un dialogue avec Winckelmann. Nous savons très bien que la fin de la vie de Piranèse, encore, est déjà malade. Il fait le voyage à Paestum, qui devient son voyage à Canossa, où il reconnaît, dans la simplicité des temples grecs, de la Magna Graecia, un art supérieur. Ça veut dire, en même temps, en étudiant soit les arabesques, soit les chapiteaux de San Lorenzo, Fouriel et Mourin, qui étaient une obsession pour les architectes du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle. Ici, nous voyons deux dessins de la collection de Cassian dal Pozzo. Nous fait comprendre la profondeur de ce Nachleben, des antiques, d'un patrimoine menacé. Laissez-moi conclure avec cette image et une autre encore sur l'actualité de la menace de ce patrimoine humain. Le 19 juillet 1943, les alliés occidentaux se voyaient contraints de bombarder même Rome, comme vous le savez. Sujet du grand roman des Amorantes, La Storia, qui était conclu avec un geste qui ne connaissait plus parole et qui d'ailleurs finissait avec la perte de parole. Je vous remercie.